Zamba.
Zambi la Samirana. Rétrospective de l'actualité de la semaine.
Bonjour, bonsoir, selon votre position géographique, c'est le moment de suivre la rétrospective de l'actualité qui a marqué cette semaine à la présentation. Je devine donc mon démarre.
Suivez les émissions de la radio Inzamba en direct sur le www.inzamba.org.
Ouvrons cette rétrospective de l'actualité par ce climat de tension dans les camps des réfugiés en Tanzanie. Non à la destruction des champs des bananiers, aux arrestations arbitraires et à toutes les mesures visant à nous contraindre de rentrer. C'est le cri des réfugiés burundais de Nduta en Tanzanie. Depuis jeudi, ils vivent la peur dans le ventre à cause des actions menées par des civils chargés de la sécurité du camp sous la supervision de la police tanzanienne. Malgré cela, les réfugiés qui se sont exprimés au micro de la radio Inzamba disent qu'ils ne vont pas fléchir pour rentrer de force. Les détails avec Benny Akserakana.
Selon des sources concordantes émanant du camp d'Nduta, il s'observe des arrestations nocturnes par les agents de la police tanzanienne en collaboration avec certains agents chargés de la sécurité au sein de ce camp. Les réfugiés qui furent responsables au camp de Mutendeli sont les plus visés dans ces arrestations. Selon les mêmes sources, ces réfugiés sont accusés de ne pas sensibiliser les autres à rentrer et aussi de soutenir des groupes rebelles.
Parmi les réfugiés qui étaient des responsables dans le camp de Mutendeli, la plupart d'eux ont été convoqués. Il y a entre autres Chimilimana Innocent, une maman du nom de Chimilimana Consolate. Nous trouvons tout cela comme une façon de nous faire peur et nous faire rentrer indépendamment de notre volonté.
Ces réfugiés demandent à la communauté internationale d'assurer leur sécurité.
Nous demandons à la communauté internationale de nous sortir de ce calvaire. Nous vivons dans une situation inquiétante.
Vous saurez que le matin de ce jeudi, les chargés de la sécurité du camp communément appelé Basungusungu ont détruit les champs de ces réfugiés. Les petits marchés qui servaient de gagne-pain pour certains réfugiés ont été aussi fermés. La rédaction de la radio Inzamba n'a pas encore réussi à joindre le responsable du camp d'Nduta pour plus d'informations sur ce que ces réfugiés qualifient de persécution.
Des groupes de militaires burundais ont franchi la frontière burundo-congolaise. C'était dans la nuit de ce jeudi à vendredi. Ils ont traversé la Rusizi en différentes équipes, renforcées par des jeunes Imbonerakure. Des sources militaires parlent d'un renfort des autres militaires qui étaient sur le sol congolais. Ils auraient comme mission de démanteler des groupes rebelles burundais à l'est de la République démocratique du Congo. Les détails avec Parfait Mudasigana.
Des informations que la rédaction de la radio Inzamba Gateka Kawe détient des sources au sein de l'armée burundaise révèlent que la première équipe a traversé la rivière Rusizi vers 2h du matin et la dernière vers 4h. Les mêmes sources font savoir que ces militaires sont passés par différents endroits. La première compagnie est passée par la Rukoko, la seconde à Buganda sur la 6e transversale et la troisième à Rugombo dans la localité de Marambo via Karurama sur la 3e transversale. Ces militaires sont venus du bataillon police militaire sous le commandement du lieutenant-colonel Ildefonse Baranyikwa, le 112e bataillon d'infanterie Camp Chibitoke sous le commandement du lieutenant-colonel Désiré Nihabose et quelques militaires du 111e bataillon Camp Gatumba. Selon toujours les mêmes sources, d'autres militaires ont été choisis individuellement dans des unités diverses. Certains d'entre eux ne se reconnaissent même pas. L'effectif qui a traversé la frontière étant de plus de 600 militaires qui composent un bataillon organique de combat et des Imbonerakure dont leur nombre avoisine 300. Ils ont été rassemblés dans 6 provinces, continuent les mêmes sources. Des sources militaires indiquent qu'ils partent pour renforcer les militaires du 212e bataillon sous le commandement du lieutenant-colonel Nyandwi qui avait été fusillé par les militaires de l'armée congolaise appuyés par des forces de la MONUSCO. Ces combats avec les militaires du 212e bataillon qui sont basés à Kiliba-Ondes, Sangé et Amutarure ont eu lieu lundi et mardi de la semaine en cours, continuent les mêmes sources. Des corps d'une trentaine de militaires burundais qui ont péri dans des combats seraient rapatriés dans les conteneurs frigorifiques du bataillon d'essaya passive dit Guantanamo. Ils ont été amenés à cet endroit par 3 véhicules du 11e bataillon blindé, 111e et 212e bataillon la nuit de mardi dernier. la rédaction de la radio Nzambagatekakawe a tenté de joindre par téléphone le colonel Floribert Biyereke, porte-parole de l'armée burundaise, pour éclairer l'opinion sur cette incursion des militaires burundais sur le sol congolais, mais sans succès.
Suivez les émissions de la radio Nzamba en direct sur le www.nzamba.org.
Capitaine François Niyonkuru a été révoqué de l'armée burundaise par décret présidentiel. Il est accusé d'un comportement indigne de la morale d'un officier. Il est connu dans les violations des droits humains. La rédaction de la radio Nzamba est revenue sur certains des cas les plus macabres qui lui sont reprochés. Plus de précisions avec Diane Nkurunziza.
Le décret de révocation du capitaine François Niyonkuru a été signé le 28 décembre de l'an 2021. Les fautes qui lui sont reprochées, c'est d'avoir perdu les qualités morales d'un officier de l'armée burundaise. Des sources de la radio Nzamba auprès de l'auditorat militaire font savoir qu'il est accusé de faire les violences basées sur le genre à l'une des militaires sous son commandement lorsqu'ils étaient en mission de maintien de la paix en Somalie. François Niyonkuru, quand il était encore au grade de lieutenant en 2011, il a été accusé d'avoir participé dans des violations des droits de l'homme, entre autres la torture des personnes arrêtées au bar de la plaine sur la route nationale numéro 5, dénommée Saga Rukoko. Il est également cité parmi les planificateurs et exécutants du carnage de Gatumba du 18 septembre 2011 qui a coûté la vie à une dizaine de personnes. À cette époque, François Niyonkuru a été mis en détention, mais comme il était agent des renseignements militaires, il a vite été libéré et a réintégré son service. Après le coup d'État manqué de l'an 2015, selon les sources au sein de l'état-major général de l'armée, le capitaine François Niyonkuru a été envoyé dans la commune Mugamba de la province Bururi. Là-bas, il a excellé dans la répression des jeunes accusés d'avoir pris part aux manifestations contre le troisième mandat de Pierre Nkurunziza. Certains ont été tués, d'autres emprisonnés et d'autres portés disparus. Ceux qui ont échappé à sa machine ont été contraints à l'exil. Certains des militaires craignent que sa révocation ne soit qu'une trompe-l'œil pour l'intégrer au sein du service national des renseignements, vu qu'il est vu de bon œil au sein des organes dirigeants du pays et ceux du parti au pouvoir, le CNDD-FDD. Les défenseurs des droits humains, quant à eux, estiment que sa révocation ne suffit pas et demandent qu'il soit plutôt traduit devant les instances de justice pour toutes ces accusations.
Une personne accusée d'avoir menti à la personne du chef de l'État à travers un message téléphonique a été arrêté. Martin Minani s'était confié au chef de l'État pour lui confier d'un vol qu'il a subi avec la complicité d'un agent du service des renseignements. Le porte-parole de la police, Pierre Mouriquier, a dit que les enquêtes ont montré que cette personne a menti. Le chef de l'État, suivez-le.
Il y a un citoyen qui a transmis un message de dénonciation à son excellence le chef de l'État. Et malheureusement, un message qui était mensonger et qui impliquait un agent du service de renseignement. Le message disait que celui qui l'a envoyé avait été victime d'une escroquerie d'un million 500 000 francs burundais qui lui aurait été volé par un Tanzanien et un agent du service de renseignement. Comme le message impliquait un agent du service de renseignement, le service a mené une enquête approfondie et a trouvé que le message était mensonger. Et comme il voulait dire lui-même la personne, il n'y a pas eu d'escroquerie. Et il n'a même pas rencontré ce Tanzanien. En fait, ce Tanzanien n'existait pas. Et puis, il n'a même pas été volé une somme d'argent. C'est lui qui avait adressé son message à son Excellence, le chef de l'État. Il s'appelle Minani Martin, alias Jacques Suleiman. Au niveau de l'enquête, on a trouvé que cette personne-là avait été approchée par un autre, s'appelle Bigirimana Kelly. Lui-même avait été envoyé par une femme brigadière de police qui s'appelle Daikengul Kedivin, qui est en fait l'épouse de cet agent de renseignement avec qui elle était en conflit.
Avant de clore cette rétrospective de l'actualité, parlons santé. Le Burundi rapporte en moyenne plus de 500 nouveaux cas détectés de la COVID-19 dans la population interne par jour depuis le 13 décembre, date de la forte flambée en cours. dans la période qui se situe entre le 2 et le 3 janvier 2022. Selon le dernier rapport du ministère de la Santé, plus de 14 400 cas ont été détectés. Le rapport montre que le taux de contamination monte en flèche. Les détails avec Trifine Kanewabo.
Ce rapport qui montre le degré de contamination de la COVID-19 dans la période du 2 au 3 janvier 2022, parmi les 1475 personnes qui ont été testées positives, on dénombre 1339 cas de transmission communautaire et 136 cas importés. Parmi eux, 107 ont été dénombrés au point d'entrée avec la République démocratique du Congo, au point d'entrée avec la Tanzanie, alors que 23 cas ont été enregistrés à l'aéroport de Bujumbura. Ces chiffres records enregistrés par le Burundi, selon ce rapport, traduit la circulation active du coronavirus dans la population générale. Le même rapport montre qu'au cours des trois dernières semaines, la hausse moyenne des cas est de 2055% par rapport aux trois semaines précédentes. Au cours des deux dernières semaines, on dénombre au total 2272 nouveaux cas communautaires, dont plus de 21% détectés dans la ville de Bujumbura. Tous les 48 districts du Burundi ont enregistré au moins un cas de COVID-19 au cours de ces derniers 14 jours. Le taux de positivité parmi les tests rapportés 2 et 3 janvier est de plus de 2%. Parmi les grands défis conclus, le rapport figure la communication des risques, l'engagement communautaire et l'augmentation du taux de couverture pour faire face à la pandémie de la COVID-19.
Voilà, madame, monsieur, c'est par ici que nous mettons un point final à cette rétrospective de l'actualité qui a marqué cette semaine. Passez un bon dimanche chez vous. Au revoir.
Zamba.
Zambi la samirana.
Rétrospective de l'actualité de la semaine.